cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour David Frey.
Bonjour.
Alors après un album où vous mettiez en parallèle une partita et une suite française de Bach avec également des pièces de Boulez et un autre album entièrement consacré cette fois-ci à Bach, on va dire que vous lâchez un peu la jambe de Bach pour, ouais. Pour changer complètement de votre fusil d'épaule et attaquer Schubert. Enfin Schubert d'ailleurs que vous aviez enregistré pour votre tout premier album, il y avait la Fantaisie von der Erde je crois et des Lieds transcrits par Liszt. Mm-hmm. Donc cette fois-ci, cet album qui sort chez Virgin Classics est composé de 6 moments musicaux de 780, de 4 impromptus, des 899 et également de l'Allegretto en do mineur. Alors peut-être avant d'attaquer ce projet, racontez-nous un peu, j'allais dire, votre histoire personnelle avec Schubert, mais j'allais dire depuis le début. Je crois que vous aviez le petit ménestrel Schubert raconté aux enfants.
Parce que je me souviens plus du nom. C'est ça, Petit Ministrel.
Voilà, c'était la collection. En fait, on racontait aux enfants. C'était des acteurs. Je crois que celui-là, c'est Michel Bouquet qui racontait effectivement.
Mais c'est la première fois que je mets un nom sur le livre disque que j'avais à l'époque. C'était un 78 tours, c'est un petit truc. Ouais. Oui, ben, avec mon frère, on écoutait ça beaucoup. Sur la vie de Schubert, avec des extraits musicaux. Évidemment, le fameux troisième moment musical dit. À la russe ou à la hongroise, comme on préfère. Et bon, ça, c'était un premier contact quand j'avais 3-4 ans. On était vraiment tout petits. Mais après, je ne me suis pas tellement intéressé à Schubert quand j'étais enfant. Je m'y suis intéressé à l'adolescence. J'avais demandé à Jacques Rouvier, qui était déjà mon professeur à l'époque, de travailler la dernière sonate en si bémol majeur, qui est quand même un monument et une œuvre d'une grande intériorité. Et bon, c'était un choix. En même temps, rien n'empêche de travailler ce qu'on veut, à partir du moment où ce n'était pas vraiment fait pour le concert. Et je n'étais pas concertiste à cette époque, j'étais étudiant. Donc je m'étais attelé à la dernière sonate de Schubert et j'y avais mis beaucoup de passion. Et je me souviens que Rouvier était assez surpris finalement qu'à mon âge je sois tellement intéressé par cette musique et que je m'y lance avec autant de ferveur. Et donc c'était un peu le baptême du feu, c'est le cas de le dire, puisque commencer avec la dernière œuvre, la dernière sonate pour piano, c'était peut-être pas la chose la plus simple. Mais c'est vrai que À cette époque-là, j'avais découvert cette sonate par Rudolf Serkin via un extrait de film, d'un concert filmé de Rudolf Serkin, et qui jouait ça avec, comme souvent Serkin, avec cette rigueur, ce feu intérieur, ces aspérités aussi. Ça, c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté finalement, l'idée que des compositeurs comme Schubert, mais aussi comme Mozart, quelque part, ne doivent pas être joués d'une manière trop lisse ou on doit éviter à tout prix la joliesse, ou un certain type de naïveté aussi.
C'est un piège ou une tentation, ce genre de choses ?
Un peu, et c'est aussi, disons qu'il y a une certaine tradition d'interprétation qui cantonnait Schubert à des pièces assez courtes et légères, ou dansantes, etc. Ce qui est évidemment une manière très superficielle de voir sa production. Et donc là, j'avais affaire au Schubert le plus, à la fois le plus énigmatique, ultime. Et je voyais cet homme, Serkin, qui jouait ça avec rage, presque, parfois, je me souviens. C'était comme de la lave, je me souviens. Ça m'avait frappé. Et je me souviens que j'étais au moins autant impressionné par l'œuvre que par la manière dont Serkin la servait à l'époque. Donc j'ai gardé de ça cette idée d'un Schubert qui ne serait pas seulement le compagnon aimable, mais aussi une voix rock parfois.
C'est marrant, parce que lors de notre dernier entretien, vous aviez dit on peut contester la validité d'une certaine tradition. Est-ce que justement il y a une tradition à chaque schubertienne qui vous agace ?
Moins que pour Mozart, par exemple. Mozart a été, pour le coup, parfois cantonné à des interprétations qu'on pourrait qualifier de bonbons un peu anglais, comme ça. C'est pas... Schubert, disons que... Je pense que Schubert a été victime jusque dans les années 50, peut-être, d'une méconnaissance de sa production. C'est-à-dire que Schubert est... Finalement, quand vous regardez le nombre d'œuvres qui ont été éditées vraiment du vivant de Schubert, vous vous rendez compte que c'était vraiment ça. C'était les œuvres à quatre mains ou les œuvres... de dimensions relativement modestes qui étaient publiées en priorité. Les sonates ou les œuvres comme ça étaient beaucoup moins servies, jouées, connues, tout simplement. Et il y a quelques personnes comme Schumann qui ont essayé de défendre les œuvres de Schubert, certaines sonates, etc., en particulier la sonate en sol majeur. Mais il a fallu attendre Schnabel, Brendel, Richter, etc., pour que vraiment on découvre une autre partie de la production de Schubert et un autre visage de Schubert, si vous voulez. Et il est bien évident que vous ne jouez pas une des deux parties de Schubert de la même manière si vous savez qu'il y a l'autre partie à côté. Donc, si vous voulez, je prends l'exemple du troisième mouvement musical, le célébrissime petit télam, papapam, pampream. Ça, par exemple, si vous ne le prenez que par l'esprit de la danse et une certaine légèreté, un peu à la hongroise comme ça, je pense que vous ratez quelque chose aussi. Parce que si vous voyez que les six pièces forment une sorte d'itinéraire quand même, vous ne pouvez pas jouer cette pièce-là d'une manière trop légère ou trop rapide même, en un sens. C'est-à-dire que, d'une part, une œuvre trouve sa signification par rapport à ce que vous savez du compositeur, du reste de sa production, évidemment, mais elle trouve aussi sa signification par rapport aux autres pièces du cycle qui la composent.
Est-ce que sa vie peut rentrer aussi en considération ? Si on prend l'exemple de Schubert, il est mort à 31 ans, je crois, 31 ans, donc assez jeune, on va dire, quand même. Quand il a écrit ses pièces, c'est à peu près, je crois, là, vous avez 28 ans, je crois, donc ouais. À peu près, dans les années. Est-ce que c'est aussi une donnée qui peut rentrer en considération ?
Je pense que c'est difficile de faire une équivalence, parce qu'à l'époque, 30 ans, ce n'était pas les 30 ans d'aujourd'hui. Ouais. Donc, bon. Mais disons qu'on a quand même affaire à un homme jeune, même si à l'intérieur, il était une vieille âme, on peut dire. Mais, non, je pense, vous savez, les histoires de maturité et d'âge par rapport aux interprètes, je pense que ce sont des choses qui sont très relatives. Pas seulement là, dans le cas de Schubert, à l'époque duquel on mourait plus jeune, mais aussi tout simplement par rapport au fait que on est prêt ou pas à servir une œuvre. Il y a des gens qui, à 20 ans, peuvent avoir la maturité de certains impromptus de Schubert, et d'autres qui, à 60 ans, ne l'auront jamais. Je veux dire, c'est une question de relation avec l'œuvre, de savoir exactement où on en est et si ce que l'on est peut servir une œuvre, ou en tout cas une partie de cette œuvre, puisqu'on n'est jamais que le serviteur d'un des aspects d'une œuvre. On ne peut évidemment pas englober tout ce qu'un chef-d'œuvre peut avoir comme différentes possibilités d'interprétation.
Et puis ensuite, la voix que vous pouvez porter 5, 6, 10 ans plus tard sur la même œuvre.
Oui, alors ça c'est encore différent. Vous pouvez aborder une œuvre, n'importe laquelle, même une Rhapsodie de Liszt, et de toute façon, 10 ans après, votre vision va forcément changer. Donc l'idée, ce n'est pas de dire qu'on joue à 20 ans comme on joue à 60 ans. C'est jamais le cas. Mais l'idée, c'est de dire qu'on peut avoir quelque chose à faire avec une œuvre, même à 20 ans, même si c'est une œuvre considérée comme une œuvre de maturité. Je pense que c'est... on ne peut pas généraliser les choses. Il faut tout simplement choisir avec beaucoup de... De perspicacité les œuvres avec lesquelles on a quelque chose à faire ou pas. Et ça, il faut à la fois se connaître soi-même et savoir exactement ce que l'on veut faire dire à une œuvre. Et comment la servir, parce que faire dire à une œuvre, il y a une idée de forcer quelque chose, mais disons de la servir au mieux.
Vous avez une définition ou une vision de ce qu'est pour vous un interprète, l'interprète ? Est-ce que c'est le passeur ? Est-ce que c'est plus ? Est-ce que c'est moins ?
À la base, l'interprète, c'est quelqu'un qui est seul devant un texte avant d'être devant un public. Donc pour moi, l'interprète, dans cette partie-là de son travail, c'est quelqu'un, comme j'ai l'habitude de le dire parfois, qui donne du sens aux signes. C'est-à-dire que nous, on a en face de nous une partition qui est une accumulation de signes, alors des signes plus ou moins objectifs, je dirais. Parce que autant une note qui est écrite, on ne va pas la changer. Une note qui est écrite, il n'y a pas 10 000 manières de la jouer. Il faut quand même jouer ce qui est marqué. Mais après, il y a d'autres éléments, disons, qui sont indiqués par le compositeur, qui, eux, sont quand même, de toute façon, livrés au prisme de la conscience et de la personnalité de l'interprète. À savoir que quand vous jouez une œuvre de Schubert, par exemple, le piano qui est dans un moment musical ne va pas être le même type de piano que dans un autre impromptu, par exemple, etc. C'est-à-dire que la notation étant ce qu'elle est, étant générale et quand même assez, entre guillemets, simpliste, vous devez, vous, savoir exactement ce qu'il y a derrière l'indication piano ou l'indication sforzando, un accent, un diminuendo, etc. Donc, si vous voulez, toutes ces choses-là, il faut les comprendre de l'intérieur. C'est-à-dire savoir pourquoi elles sont là, à quoi elles servent, et ça, c'est le rôle d'un interprète. Après, il y a effectivement la partie plus... la partie scénique, disons, et qui est de... tout ce que vous avez... tout ce à quoi vous êtes parvenu, il faut essayer de le faire parvenir au public. Et l'idée, c'est pas de montrer qu'on a compris quelque chose, c'est de faire comprendre aux gens, que eux aient l'impression d'être intelligents, pas de leur montrer que vous l'êtes. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Vous avez fait le travail que vous deviez faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens, eux, après, puissent s'approprier une œuvre, avoir l'impression qu'elle leur a dit quelque chose à eux et à eux seuls. Et ça, c'est quelque chose que Schubert, en particulier, sait faire mieux que personne.
Vous êtes le passeur aussi entre ça, entre
Oui, je suis le médium, quoi. C'est-à-dire qu'entre l'œuvre et le public, il y a ce tuyau que je suis. Et donc, au moment de parcourir le trajet entre l'œuvre et le public, ça prend quelque chose de moi-même. Et ce quelque chose, ça ne doit pas être quelque chose de greffé ou de trop volontaire. Ça doit être quelque chose qui, presque malgré soi, se mélange avec ce qu'est l'œuvre. Et c'est une chose un peu mystérieuse, mais qui donne tout son sens à l'idée d'interprétation.
Thank you.
puisque Schubert précisément vous laisse comme liberté, vous laisse pas, par rapport à d'autres compositeurs justement dans ce lien entre public, partition.
Schubert n'est pas un compositeur qui est extrêmement, qui donne énormément d'indications sur la partition, par rapport à tout ce que vous pouvez envisager comme possibilité. Ce qu'il a écrit finalement, c'est pas très chargé comme type d'indication. Si vous partez du principe que Schubert, c'est un compositeur que le piano en tant qu'instrument n'intéressait pas énormément, ce qui intéressait Schubert, c'était d'une part la proximité qu'on peut avoir avec l'instrument piano, c'est-à-dire cette idée d'un confident aussi, je pense. Et donc l'idée aussi, par exemple, dans les pièces lyriques que j'ai enregistrées, que l'on puisse jouer une œuvre qui serait comme un lead sans parole, mais bon, évidemment, tout au piano comme ça. Et voilà.
Ce genre de pièce, justement, vous qui revendiquez un peu un côté proche de la voix en général, c'est que vous avez déjà dit que parfois même des voix ont été peut-être plus d'influence pour vous que certains pianistes. Mmh. Est-ce que justement ce genre de pièce vous porte encore plus vers justement cette façon de faire chanter?
C'était aussi une des raisons de ce choix discographique, c'est-à-dire qu'après le travail que j'avais fait sur Bach, qui était un travail lié déjà à la voix, je me suis dit que, en toute logique, Schubert était peut-être le prochain maillon, disons, de ça. D'une part parce que c'est un compositeur dont la production de leader m'accompagne depuis toujours, vraiment. Les leaders de Schubert, c'est une des musiques qui me touche le plus et que je connais pas mal, je dirais. Mais il n'y a pas seulement la voix chez Schubert, il peut y avoir l'orchestre. Par exemple, dans le premier impromptu, opus 90, vous pouvez imaginer beaucoup de dispositions et de répartitions au sein de l'orchestre du matériau que Schubert a marqué au piano. Donc il faut s'imaginer ce qu'un compositeur qui a déjà composé pour orchestre, pour voix, pour des messes, etc., peut aussi avoir en tête quand il écrit seulement pour le piano. Je ne pense pas qu'il devient un autre personnage quand il se met à écrire pour le piano. Il est riche de tout ce qu'il a fait avant, de tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait des autres instruments, de l'orchestre, de la voix, etc. Donc ça doit être quelque chose qui doit être pris en compte.
Dans un petit film promo qui a été fait, je crois, par votre maison de disques, vous parlez notamment de l'intimité de Schubert, du côté presque familier de sa musique. Vous parlez de cet aspect-là. Comment...
Oui, il y a un aspect quotidien chez Schubert. Même dans les leaders, vous pouvez avoir dans la belle meunière, etc., des moments qui parlent de choses pratiquement banales, on peut dire, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, Schubert est un compositeur qui, en un sens, ne pensait pas être au-dessus de tout le monde, si vous voulez. Il y a une espèce de... Je ne suis pas sûr que Beethoven, par exemple, avait cette conscience-là. Beethoven était vraiment un être à part. Schubert, on a l'impression que c'est un compagnon qui est parmi nous, mais qui simplement, mieux que nous, sait dire ce qu'on a à l'intérieur de soi, si vous voulez. Donc il n'est pas différent de nous, il n'est pas exceptionnel. Ce qu'il a d'exceptionnel, c'est que lui, il arrive à nous faire sentir et comprendre qui on est, d'une manière tellement proche, intime et singulière.
C'est presque la psychanalyse, en fait, hein, pour ce que vous dites, presque.
Non, c'est, disons que le plus psy l'artiste, c'est aussi quelqu'un qui sait voir la vie, voir l'âme humaine différemment, ou qui sait aussi l'exprimer d'une manière particulièrement juste, particulièrement sensible. Et je pense que Schubert, c'est totalement ça, si vous voulez. Il y a...
Est-ce que toutes ces spécificités de compositeur, tant dans l'écriture que dans les personnalités, dans tout ce que vous venez de dire, c'est aussi la difficulté pour l'interprète? C'est-à-dire, le compositeur reste le même, et vous changez, j'ai l'air, de vêtements à chaque fois, quoi. Mais comment on trouve justement ça... on reste soi-même en changeant d'interlocuteur, enfin de matériaux à passer.
Je pense pas que l'obsession d'être soi-même doit guider un musicien. Je crois au contraire qu'il ne faut pas penser je dois montrer que c'est moi, ou je dois garder ma signature ou ma patte. Je pense que, vous savez, il y a un mot de Braque que j'aime beaucoup qui dit sans travail, le talent n'est qu'un mauvais tic. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi cette idée que parfois on appelle style des choses qui sont des tics. Je pense qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut se mettre au service de l'œuvre, rester soi-même, et de toute façon, encore une fois, l'empreinte qui va être la vôtre va surgir automatiquement. Il ne faut pas avoir peur de ne pas mettre assez de soi dans quelque chose. Si on le fait avec, avec la sincérité et le travail qui sont nécessaires, je ne pense pas que ce problème-là se pose. Enfin, vous savez, les œuvres voyagent aussi avec vous. Je ne joue pas les impromptus de Schubert de la même manière à Paris il y a un an que ensuite, quelques temps plus tard, en Allemagne ou en Autriche, encore un autre endroit, avec un autre piano, une autre salle. Tout change sans arrêt. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui reste, une sorte de point fixe, qui peut être votre style, qui peut être votre sensibilité. Mais les moyens parfois changent aussi. Donc vous pouvez exprimer la même chose, mais de manière différente aussi.
Pour rester sur ce domaine de l'interprète, de la partition, etc., je trouvais cette citation de Brendel qui parle de Glenn Gould et qui dit « Pour moi, Gould était le parfait exemple de ce qu'un interprète ne doit pas être. C'est un excentrique qui faisait tout pour contrecarrer les désirs du compositeur ou le caractère de l'œuvre. » Qu'est-ce que vous pensez
ça? C'est une phrase que je laisse à la responsabilité d'Alfred Brendel. Personnellement, j'ai un regard sur Gould, par exemple, qui est pas le même. Une partie de ce que dit Brendel peut être considérée comme juste. Je suis d'accord avec l'idée qu'un interprète, aussi génial soit-il d'ailleurs, ne doit pas tout faire pour se mettre devant l'œuvre. Mais comme le disait Alexandre Dumas, parfois vous pouvez violer l'histoire pour lui faire de beaux enfants. Donc il y a quelques exceptions, Moi je suis un peu plus ouvert, disons. C'est-à-dire que je considère qu'il y a des choses que je peux pardonner et même trouver intéressantes quand elles sont faites avec un talent tellement important et fascinant. Il y a beaucoup de choses de Bach par Glenn Gould que je trouve pas, dont je n'ai pas l'impression qu'elles fassent vraiment écran à la musique de Bach. J'ai plutôt l'impression qu'elles nous ont fait découvrir une autre facette ou autre chose. Après, c'est vrai que c'est plus contestable pour des choses comme Mozart, Beethoven, etc. Mais vous savez, les interprètes qui se vantent trop d'une certaine objectivité en musique sont soit trop idéalistes, soit pas très honnêtes, parce que finalement...
Vous pensez au baroque, par exemple?
Non, pas forcément, je pense en général. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, je pense qu'on doit faire son deuil d'une certaine idée, une certaine objectivité, si vous voulez. Je pense qu'il faut assumer sa subjectivité, bien la vivre, l'utiliser, utiliser toutes ses potentialités pour justement être fidèle à l'œuvre, quelque part. Le paradoxe de notre métier... c'est que ce n'est pas en étant le plus objectif possible que l'on va faire vivre une œuvre qu'on n'a pas composée nous-mêmes. Vous savez, pour ranimer une œuvre, on a besoin d'y mettre notre âme à l'intérieur, quelque part. Alors ça, il faut aussi l'assumer. Ça ne veut pas dire devenir égocentrique et se prendre pour le créateur, chose que je n'ai jamais pensé. Ça veut simplement dire, oui, je suis le souffle qui ranime une œuvre. Il y en a plein, des tas d'autres, et d'autres possibilités, mais au moment où je joue, c'est moi qui donne aussi mon sang, mon âme pour ça.
Comment s'est fait le choix des œuvres de cet album et l'assemblage, etc. Est-ce que pour vous, il y a l'album donc, au sens de l'instantané de vous à un moment donné. Pourquoi ces œuvres-là précisément? Pourquoi l'ordonnancement? Pourquoi ce moment-là de votre carrière?
Les impromptus, ils m'avaient accompagné déjà au concert, donc c'était... Bon, disons que c'était aussi une possibilité. Je voulais pas faire les 8 impromptus sur un disque, par exemple, parce que moi, personnellement, à la maison, je n'aime pas entendre les deux cahiers l'un après l'autre. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est deux univers qui se... Pas qui se contredisent, mais disons que je n'aime pas faire cohabiter, je dirais plutôt. Pour moi, ils sont vraiment très différents, les deux cahiers. Et je voulais quand même rester... Je ne voulais pas rajouter une sonate non plus, parce que je voulais rester dans les pièces relativement courtes. Et lyrique, si vous voulez. Et puis au milieu, j'ai mis cette espèce de diamant noir qui est l'allegretto en do mineur, qui donne une sorte de pont entre les deux recueils, si vous voulez. Parce que les moments musicaux, c'est une texture un peu plus légère, je dirais, que les impromptus. Les impromptus, paradoxalement, par rapport à leur titre, ont quelque chose de plus installé, un type de sonorité aussi qui convient, qui est un peu plus charnu, quoi, je dirais. Les moments musicaux, en un sens plus délicat. Voilà. Les moments musicaux ont une fragilité que les impromptus n'ont pas au même degré, je dirais. Et donc, pour faire la transition entre ces deux univers, l'allegretto en do mineur, qui a à la fois cette patte sombre du do mineur, comme le premier impromptu d'ailleurs, qui est aussi en do mineur, et en même temps, cette brièveté, cette concision, et ces silences qui trouent la partition sans arrêt, comme ça. Et je trouvais que ça faisait un pont vraiment idéal pour ces deux corpus.
Comment vous êtes par rapport à l'enregistrement, c'est-à-dire le studio, etc. Quand vous rentrez en studio, est-ce que vous êtes perfectionniste, vous avez besoin de re-entendre, vous avez besoin de beaucoup de prises, comment ça a fonctionné déjà aussi pour cet album-là ?
Je suis de plus en plus détendu par rapport au studio, c'est-à-dire que je le vois de plus en plus comme un moment et un seul, et donc du coup je le vis mieux qu'avant, quelque part. Avant, j'essayais de, étant donné que c'était quelque chose qui était gravé, j'essayais de faire une espèce de synthèse, de faire quelque chose de à la fois de parfait et de une sorte de résumé de tout ce que je pouvais penser dire d'une œuvre. Et en fait, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que comme ça, on ne touche que partiellement des tas de pistes. Je préfère aller vraiment dans une direction qui est celle du moment dans lequel je me trouve, si vous voulez. Donc ce qui se passe, c'est que pour ce disque-là, on l'a fait vraiment d'une manière... Ça a été un peu... un moment un peu hors du temps, comme ça. On l'a fait en 2 jours, ce qui est quand même court. Et on a tout enregistré avec des prises complètes, pratiquement. C'est-à-dire que le disque, tel qu'il est fait, n'a pratiquement pas de montage, il n'y a pas vraiment de coupure. Ce qui me semble être aussi un impératif pour ces musiques qui sont un souffle, une ligne, si vous voulez. Paradoxalement, une musique comme Bach, qui a quelque chose de plus analytique, si vous la coupez, elle va en souffrir un peu moins. Je dis bien qu'elle en souffre aussi, mais moins quand même. Schubert, c'est vraiment... qu'est-ce que vous voulez couper dans le troisième impromptu en sol bémol majeur ? Une espèce de ligne comme ça, une mélodie accompagnée de triolets comme ça. Il faut aller vers le plus de fluidité, le plus de naturel possible. Donc si vous voulez, l'idée c'était de faire des prises complètes. Après la première, j'allais l'écouter pour voir évidemment comment mon jeu réagissait face au micro, parce que si vous voulez, moi j'entends ce que je suis de mon tabouret de piano, mais je ne sais pas, le micro est parfois réserve des surprises, si vous voulez. Donc il faut aussi parfois ajuster ou se dire tiens, ben, tout simplement, le micro fait se rendre compte de certaines choses. Tiens, peut-être par rapport à ce que j'ai fait là, peut-être que le silence ici doit être un peu plus long. Voilà, des choses comme ça qui... des ajustements, je dirais. Donc moi, j'ai quand même besoin d'avoir tout de suite une vision de ce que je viens de faire et de comment elle s'accommode du micro. Et puis ensuite, ça, c'est parti. Et en général, ça va assez vite. En tout cas, là, pour cette chose-là, ça allait assez vite. Et je ne voulais surtout pas faire un enregistrement comme... Malheureusement, beaucoup d'enregistrements sont faits un peu chirurgicaux, parfaits, léchés. Je trouve que ça... Moi, j'ai beaucoup d'enregistrements comme ça à la maison. Parfois, je ne les écoute pas. Les enregistrements que j'écoute le plus, c'est ceux justement qui
plus proche du concert, finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de...
Oui, et en même temps, le disque, ce n'est pas un concert, ouais. Si vous voulez. Donc, le paradoxe, c'est qu'il faut à la fois trouver quelque chose de naturel et en même temps, on ne peut pas jouer non plus totalement comme au concert. L'idée, c'est de jouer comme à la maison, peut-être.
ces pièces-là dans un studio, les jouer dans un concert, enfin être l'un et la suite de l'autre, l'un va avec l'autre. Est-ce que s'il y en avait un des deux seuls qui pouvait exister, vous faites avec, comment ça, ou ça dépend des œuvres peut-être, je sais pas.
Moi, à vrai dire, j'avais peur d'enregistrer du Schubert, par exemple, parce que je trouvais que c'était de la musique qui rentrait mal en boîte, je dirais. C'est une musique tellement qui a une, tellement de fraîcheur, de comme Mozart aussi. C'est une musique qui doit être tellement vivante, comme ça, du moment quelque part, quelque chose de. Les sonates peut-être un tout petit peu moins, mais Schubert, c'est quelque chose qui s'accommode mal de la technologie, du montage, du studio, de, je sais pas, c'est. On doit avoir l'impression que ça fait partie ça fait partie de la vie, je veux dire. Il ne faut pas le couper du reste.
Ça passe bien au cinéma, parfois.
Quand oui, c'est un cinéaste. Oui, oui, pourquoi pas. Mmh. Schubert doit faire partie de la vie. Ce n'est pas quelque chose qui doit être coupé. Par exemple, Bach, à mon avis, doit être une sorte de parenthèse divine dans notre agitation moderne. Schubert, lui, même s'il a quelque chose aussi d'un peu extraterrestre, hein, ceci dit, mais il faut lui garder cette familiarité, cette proximité, cette quotidienneté presque. Et ça, c'est pas toujours évident, surtout avec un disque.
Est-ce que c'est évident de, quand on a l'intimité, pas uniquement de Schubert, mais même de soi avec son instrument, d'être seul dans des récitals et tout à coup de se retrouver, de par raison professionnelle et de carrière, de se retrouver à l'autre bout du monde, de jouer avec des musiciens internationaux, puis de revenir, etc. De passer d'un extrême à l'autre, de l'intimité, seul avec son instrument, à des voyages, des horaires, des concerts, etc. Quelque chose parfois, une sorte de flow dans lequel on ne peut même pas trop souffler. Comment vous le gérez, cet aspect-là ?
Il faut être un peu schizophrène pour faire ce métier, puisqu'il faut avoir cette partie du jeune homme moderne dans son époque qui prend l'avion, qui est bon. Et puis en même temps, il faut avoir cette partie que j'appellerais intemporelle, qui est celle de l'art, et qui, elle, n'a pas de période définie, pas d'âge. Oui, on doit être double. Moi, je me sens un peu double, quelque part. Même si cette part artistique qui m'habite, elle est toujours là, avec moi. Mais je pense qu'il faut, protéger l'une de l'autre, si vous voulez. Oui, préserver l'une de l'autre.
Mais surtout que l'une ou l'autre, je ne sais pas laquelle des deux, on doit la... Elle est demandée à un instant T, c'est-à-dire qu'on se retrouve à un concert devant un public, on a fait, je sais pas, 10 heures d'avion, etc., et on se retrouve, et il faut retrouver, switcher de Jekyll Hyde, enfin, je sais pas si c'est Jekyll Hyde, mais...
Oui, mais étant donné que c'est parfois moins difficile que ce qu'on peut imaginer, parfois c'est difficile, hein, ceci dit, mais à partir du moment où c'est quelque chose qui est toujours souterrainement en nous, c'est-à-dire que c'est pas on ou off, si vous voulez, c'est simplement, je le mets en lumière ou pas. C'est simplement, c'est au deuxième plan ou c'est au premier plan ? Là, en ce moment, au moment où je vous parle, c'est au deuxième plan parce que je suis en train de faire autre chose, de vous parler, etc. Mais il suffirait d'un claquement de doigts pour que tout d'un coup, ça remonte. Si vous voulez, il y a une étanchéité entre les deux, malgré tout. Et une simultanéité plutôt entre les deux, ça c'est sûr.
Comment tout ça, tous ces éléments presque extérieurs, j'allais dire, influent votre vision de la musique et votre rapport avec les partitions ? Quelque chose qui est très intime quand on commence l'apprentissage, un instrument comme le piano et qui prend tout son temps, toute sa vie, et vous, la partition, le compositeur, etc., et tout à coup plein d'éléments extérieurs, d'enregistrer une maison de disque, faire des interviews comme là, etc. Est-ce qu'on... C'est facile justement de garder cette...
Mais en fait, je vais vous dire, l'un est le remède à l'autre. C'est ça la vérité pour moi. C'est que, pour moi, l'art, la musique en particulier, c'est... à la fois un commentaire de l'agitation du monde, parce que vous ferez l'expérience n'importe quand, vous mettez une belle musique sur n'importe laquelle des situations que vous pouvez vivre dans la vie, attendre le métro, regarder par la fenêtre, et vous mettez une musique, tout d'un coup, ça va apporter une couleur et une sorte de commentaire muet à ce que vous êtes en train de vivre, qui est absolument fabuleux. Et en même temps, c'est aussi un refuge, quelque part. C'est-à-dire que... je pense vraiment que l'art est un remède contre la paresse, l'agitation, l'absurdité du monde, si vous voulez. Et c'est ce que j'essaye aussi de procurer au public, moi. Ce que je veux donner au public, c'est pas seulement que le public sorte en disant « c'est une belle musique » ou « c'est un bon pianiste », ça, à la limite, c'est pas un grand intérêt. Ce que je veux, c'est qu'ils jettent un regard différent sur la vie en général, peut-être sur la leur. Mais ça, c'est pas une volonté prétentieuse de ma part. C'est que je crois simplement que c'est le rôle de la musique. Moi, j'essaye simplement de le mettre en pratique et de l'appliquer, si vous voulez. Mais pour moi, un concert et la musique, c'est quelque chose qui change les choses un petit peu. C'est dans ce un petit peu que parfois se trouvent les choses les plus essentielles et précieuses, fragiles aussi.
Il y aurait d'autres œuvres de Schubert que vous auriez envie d'enregistrer rapidement dans votre carrière ou...
Moi, j'ai rien envie d'enregistrer rapidement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, un projet discographique, c'est vraiment un... J'ai pas envie de dire un accouchement, parce que c'est un peu exagéré, mais disons que c'est quand même le fruit, le résultat, l'aboutissement d'un certain processus, d'une certaine réflexion, d'une certaine maturation. Donc je peux pas faire des disques comme d'autres multiplient les pains, si vous voulez, c'est impossible. Ça demande à chaque fois, là par exemple, je sais quel sera mon prochain projet discographique, mais je ne sais pas quel sera celui d'après encore. Parce que tout ça accompagne ce que je suis, mon évolution, ce qui à un moment ou à un autre de ma carrière compte le plus au piano. C'est-à-dire qu'en ce moment, effectivement, cette manière de parler, de chanter au piano est quelque chose d'essentiel. Et en même temps, ce qui est essentiel en ce moment pour moi aussi, c'est le travail sur la polyphonie. Donc évidemment que Bach a été essentiel à cause du contrepoint, et du lyrisme quand même qu'on peut trouver chez lui et de cette parole extraordinaire qui se trouve dans ses œuvres. Donc si vous voulez, je trouve les choix que je fais sont aussi le reflet de mes préoccupations artistiques du moment, de ce que je suis, de ce que j'aime. Voilà, si vous voulez, ce sont des bornes qui indiquent un peu ce vers quoi je m'achemine. Et peut-être qu'au final, ça aura une certaine logique. Pour l'instant, si vous voulez, c'est la logique, c'est celle de mon parcours d'homme et de musicien.
Pour finir sur Schubert, est-ce qu'il y a des Schubertiens, des pianistes qui vous ont plus chamboulé que d'autres? Peut-être pas obligatoirement influencé, mais dont l'approche vous a...
Ben, ceux qui parlent Schubert comme si c'était leur langue maternelle.
C'est-à-dire Brandel, par exemple.
Moi, j'adore Brendel, et bizarrement, pas toujours dans Schubert. Non, j'aime Brendel pour des œuvres qui demandent un peu plus de sophistication. Pour Schubert, je trouve que la sophistication n'est pas toujours un bienfait. Par exemple, Kempf est exempt de toute sophistication. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais quelqu'un en train de faire quelque chose. On entend quelque chose qui se passe. Il n'y a pas cette espèce de deuxième degré qui met une distance entre soi et la musique. Je pense que Schubert est un des compositeurs qui doit être pris le plus à bras-le-corps, je dirais même embrassé, si vous voulez. Schubert, c'est une musique qu'on embrasse ou qu'on ne joue pas, à ce moment-là. Si vous n'avez pas cette... Je crois que c'est Edwin Fischer qui avait dit à Brendel, justement, vous jouez Schubert comme si c'était un oncle à vous. Ben, c'est un beau compliment, parce que je pense que c'est la seule manière de lui rendre justice.
Vous avez parlé de projet tout à l'heure, mais vous n'êtes pas rentré dans les détails. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, tant sur disque à la scène d'ailleurs?
Ben, pour le disque, ça sera vraisemblablement des concertos de Mozart. Là aussi, il y aura une distance entre l'espace symphonique et l'espace intime, celui du soliste. C'est-à-dire, c'est ça qui m'intéresse aussi. Moi, je suis très, très intéressé par la distance entre les choses. Tout est une affaire de distance. La distance à laquelle vous regardez un tableau, la distance à laquelle vous vous postez par rapport à la musique aussi, et à quelle distance la musique se trouve aussi en général. C'est-à-dire que dans les œuvres de Schubert, vous remarquerez qu'on passe très facilement de l'observation à l'extérieur de soi à l'observation de soi. C'est-à-dire que c'est toujours cet aller-retour et toutes les graduations possibles entre cette observation extérieure et intérieure, c'est-à-dire vous rapprochez progressivement ou pas, etc. Et ça, c'est un travail qui est vraiment intéressant à faire, par exemple. Moi, le travail qui m'intéresse, c'est pas le travail proprement pianistique. Le travail proprement pianistique, dans ce qu'il peut exprimer, justement, toutes ces subtilités que la musique, à mon avis, doit transmettre.
Ah, pour terminer, quand on s'était parlé la dernière fois, vous parliez de choses autres que la musique classique que vous écoutiez, vous aviez cité Michael Jackson. Alors, depuis, il est mort, alors, je voudrais savoir un peu ce que cette disparition vous a, et tout le phénomène qui en a suivi.
C'est... Je sais pas quoi dire. Oui, c'est vrai que c'est un musicien que j'écoutais de temps en temps.
Vous l'avez réécouté depuis ?
Je réécoutais parce qu'on est bien forcé. Oui, oui. Non, là aussi, on a affaire à un phénomène d'ambiguïté, par exemple. Moi, je dis que souvent, l'ambiguïté est une chose qui m'intéresse. Michael Jackson, c'était l'ambiguïté fait homme, hein, ou fait je sais pas quoi, d'ailleurs. C'était assez... Il y a même des gens qui l'ont comparé au castrat de l'époque, avec ce côté ni homme ni femme, qui était aussi vrai physiquement. Il a vraisemblablement apporté beaucoup de choses à la musique pop. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses, mais je reconnais quand même le poids et l'importance que peut avoir un personnage comme celui-là sur son courant musical, disons. Et bon, après, c'est vrai que si on en parle trop, ça commence à être un petit peu pesant.
Merci David Frey.
Merci.
arrobase.com. Rencontre par Marc Zisman.